un changement total de vie est une crise si violente que, malgré sa décision, Jacques Collin gravissait lentement les marches de l'escalier qui, de la rue de la Barillerie, mène à la galerie marchande, où se trouve, sous le péristyle de la cour d'assises, la sombre entrée du parquet. Une affaire politique occasionnait une sorte d'attroupement au pied du double escalier qui mène à la cour d'assises, en sorte que le forçat, absorbé dans ses réflexions, resta pendant quelque temps arrêté par la foule. À gauche de ce double escalier, il se trouve comme un énorme pilier, un des contreforts du palais, et dans cette masse, on aperçoit une petite porte. Cette petite porte donne sur un escalier en colimaçon qui sert de communication à la conciergerie. C'est par là que le procureur général, le directeur de la conciergerie, les présidents de cour d'assises, les avocats généraux et le chef de la police de sûreté peuvent aller et venir. C'est par un embranchement de cet escalier, aujourd'hui condamné, que Marie-Antoinette, la reine de France, était amenée devant le tribunal révolutionnaire, qui siégeait, comme on le sait, dans la grande salle des audiences solennelles de la cour de cassation. À l'aspect de cet épouvantable escalier, le cœur se serre quand on pense que la fille de Marie-Thérèse, dont la suite, la coiffure et les paniers remplissaient le grand escalier de Versailles, passait par là. Peut-être expiait-elle le crime de sa mère, la Pologne hideusement partagée. Les souverains qui commettent de pareils crimes ne songent pas évidemment à la rançon qu'en demande la Providence. Au moment où Jacques Collin entrait sous la voûte de l'escalier pour se rendre chez le procureur général, Bibi Lupin sortit par cette porte cachée dans le mur. Le chef de la police de sûreté venait de la conciergerie et se rendait aussi chez M. de Granville. On peut comprendre quel fut l'étonnement de Bibi Lupin en reconnaissant devant lui la redingote de Carlos Herrera, qu'il avait tant étudiée le matin. Il courut pour le dépasser. Jacques Collin se retourna. Les deux ennemis se trouvèrent en présence. De part et d'autre, chacun resta sur ses pieds. Et le même regard partit de ses deux yeux, si différents, comme deux pistolets qui, dans un duel, partent en même temps. « Cette fois, je te tiens, brigand !» dit le chef de la police de sûreté. « Ah, ah !» répondit Jacques Collin d'un air ironique. Il pensa rapidement que M. de Granville l'avait fait suivre. Et chose étrange, il fut peiné de savoir cet homme moins grand qu'il l'imaginait. Bibi Lupin sauta courageusement à la gorge de Jacques Collin, qui, l'œil à son adversaire, lui donna un coup sec et l'envoya les quatre fers en l'air à trois pas de là. Puis Trompe-la-Mort alla posément à Bibi Lupin et lui tendit la main pour l'aider à se relever, absolument comme un boxeur anglais qui, sûr de sa force, ne demande pas mieux que de recommencer. Bibi Lupin était beaucoup trop fort pour se mettre à crier, mais il se redressa, courut à l'entrée du couloir et fit signe à un gendarme de s'y placer. Puis, avec la rapidité de l'éclair, il revint à son ennemi qui le regardait faire tranquillement. Jacques Collin avait pris son parti. Ou le procureur général m'a manqué de parole, ou il n'a pas mis Bibi Lupin dans sa confidence. Et alors il faut éclaircir ma situation. « Veux-tu m'arrêter ?» demanda Jacques Collin à son ennemi. « Dis-le, sans y mettre d'accompagnement. Ne sais-je pas qu'au cœur de la cigogne, tu es plus fort que moi ? Je te tuerai à la savate, mais je ne mangerai pas les gendarmes et la ligne. Ne faisons pas de bruit. Où veux-tu me mener ?
Chez Monsieur Camusot.
Allons chez Monsieur Camusot, répondit Jacques Collin.
Pourquoi n'irions-nous pas au parquet du procureur général? C'est plus près, ajouta-t-il.
Bibi Lupin, qui se savait en défaveur dans les hautes régions du pouvoir judiciaire et soupçonné d'avoir fait fortune aux dépens des criminels et de leurs victimes, ne fut pas fâché de se présenter au parquet avec une pareille capture.
Allons-y, dit-il. « Ça me va, mais puisque tu te rends, laisse-moi t'accommoder. Je crains tes gifles. »
Et il tira des poucettes de sa poche. Jacques Collin tendit ses mains et Bibi Lupin lui serra les pouces.
« Ah, ça, puisque tu es si bon enfant, reprit-il, dis-moi comment tu es sorti de la conciergerie.
Mais par où tu es sorti? Par le petit escalier.
Tu as donc fait voir un nouveau tour aux gendarmes?
Non, monsieur de Granville m'a laissé libre sur parole.
Planches-tu?
Plaisantes-tu?
Tu vas voir, c'est toi peut-être à qui l'on va mettre les poucettes.
En ce moment, Corentin disait au procureur général.
Eh bien, monsieur, voilà juste une heure que notre homme est sorti. Ne craignez-vous pas qu'il ne se soit moqué de vous? Il est peut-être sur la route d'Espagne, où nous le trouverons plus, car l'Espagne est un pays tout de fantaisie.
Ou je ne me connais pas en homme, ou il reviendra. Tous ses intérêts l'y obligent. Il a plus à recevoir de moi qu'il ne me donne.
En ce moment, Bibi Lupin se montra. Monsieur le comte, dit-il, j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Jacques Collin, qui s'était sauvé, est repris.
Voilà, s'écria Jacques Collin. Comment vous avez tenu votre parole? Demandez à votre agent à double face où il m'a trouvé.
Où? Dit le procureur général.
À deux pas du parquet, sous la voûte, répondit Bibi Lupin.
Débarrassez cet homme de vos ficelles, dit sévèrement M. de Granville à Bibi Lupin.
Sachez que jusqu'à ce qu'on vous ordonne de l'arrêter de nouveau, vous devez laisser cet homme libre. Et sortez, vous êtes habitué à marcher et à agir comme si vous étiez à vous seul la justice et la police.
Et le procureur général tourna le dos au chef de la police de sûreté qui devint blême, surtout en recevant un regard de Jacques Collin où il devina sa chute.
« Je ne suis pas sorti de mon cabinet, je vous attendais, et vous ne doutez pas que j'ai tenu ma parole comme vous teniez la vôtre, »
dit M. de Granville à Jacques Collin. « Dans le premier moment, j'ai douté de vous, monsieur, et peut-être à ma place, eussiez-vous pensé comme moi. Mais la réflexion m'a montré que j'étais injuste. Je vous apporte plus que vous ne me donnez, vous n'aviez pas intérêt à me tromper. »
Le magistrat échangea soudain un regard avec Corentin. Ce regard qui ne put échapper à Trompe-la-Mort, dont l'attention était portée sur M. de Granville, lui fit apercevoir le petit vieux étrange, assis sur un fauteuil dans un coin. Sur-le-champ, averti par cet instinct si vif et si rapide qui dénonce la présence d'un ennemi, Jacques Collin examina ce personnage. Il vit du premier coup d'œil que les yeux n'avaient pas l'âge accusé par le costume, et il reconnut un déguisement. Ce fut en une seconde la revanche prise par Jacques Collin sur Corentin, de la rapidité d'observation avec laquelle Corentin l'avait démasqué chez Peyrade. Entre parenthèses, voir Splendeurs et misères, deuxième partie.
« Nous ne sommes pas seuls, » dit Jacques Collin à M. de Granville.
« Non, » répliqua sèchement le procureur général.
« Et monsieur, reprit le forçat, est une de mes meilleures connaissances, je crois. »
Il fit un pas et reconnut Corentin, l'auteur réel, avoué de la chute de Lucien. Jacques Collin, dont le visage était d'un rouge de brique, devint, pour un rapide et imperceptible instant, pâle et presque blanc. Tout son sang se porta au cœur, tant fut ardente et frénétique, son envie de sauter sur cette bête dangereuse et de l'écraser. Mais il refoula ce désir brutal et le comprima par la force qui le rendait si terrible. Il prit un air aimable, un ton de politesse obséquieuse, dont il avait l'habitude depuis qu'il jouait le rôle d'un ecclésiastique de l'ordre supérieur, et il salua le petit vieillard.
« Monsieur Corentin, dit-il, est-ce au hasard que je dois le plaisir de vous rencontrer? Ou serais-je assez heureux pour être l'objet de votre visite au parquet ?»
L'étonnement du procureur général fut au comble, et il ne put s'empêcher d'examiner ces deux hommes en présence. Les mouvements de Jacques Collin et l'accent qu'il mit à ses paroles dénotaient une crise, et il fut curieux d'en pénétrer les causes. À cette subite et miraculeuse reconnaissance de sa personne, Corentin se dressa comme un serpent sur la queue duquel on a marché.
« Oui, c'est moi, mon cher abbé Carlos Herrera.
Venez-vous, lui dit Trompe-la-Mort, vous interposer entre monsieur le procureur général et moi? Aurais-je le bonheur d'être le sujet d'une de ces négociations dans lesquelles brillent vos talents? Tenez, monsieur, dit le forçat en se retournant vers le procureur général.
pour ne pas vous faire perdre des moments aussi précieux que les vôtres, lisez, voici l'échantillon de mes marchandises. » Et il tendit à M. de Granville les trois lettres qu'il tira de la poche de côté de sa redingote. « Pendant que vous en prendrez connaissance, je causerai, si vous le permettez, avec monsieur. » « C'est beaucoup d'honneur pour moi, » répondit Corentin, qui ne put s'empêcher de frissonner. « Vous avez obtenu, monsieur, un succès complet dans notre affaire, » dit Jacques Collin. « J'ai été battu, » ajouta-t-il légèrement, et à la manière d'un joueur qui a perdu son argent. « Mais vous avez laissé quelques hommes sur le carreau. C'est une victoire coûteuse. » « Oui, » répondit Corentin en acceptant la plaisanterie. « Si vous avez perdu votre reine, moi j'ai perdu mes deux tours. »« Oh, Contenson n'est qu'un pion !» répliqua railleusement Jacques Collin. « Ça se remplace. Vous êtes, permettez-moi de vous donner cet éloge en face, vous êtes, ma parole d'honneur, un homme prodigieux. » « Non, non, je m'incline devant votre supériorité !» répliqua Corentin qui eut l'air d'un plaisant de profession, disant « Tu veux blaguer, blagons !» Comment, moi, je dispose de tout, et vous, vous êtes pour ainsi dire tout seul. Oh, oh, fit Jacques Collin. Et vous avez failli l'emporter, dit Corentin en remarquant l'exclamation. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré dans ma vie, et j'en ai vu beaucoup d'extraordinaires, car les gens avec qui je me bats sont tous remarquables par leur audace, par leur conception hardie. J'ai, par malheur, été très intime avec feu Monseigneur, le duc d'Otrante. J'ai travaillé pour Louis XVIII quand il régnait et quand il était exilé, pour l'empereur et pour le directoire. Vous avez la trempe de Louvel, le plus bel instrument politique que j'ai vu, mais vous avez la souplesse du prince des diplomates. Et quels auxiliaires! Je donnerais bien des têtes à couper pour avoir à mon service la cuisinière de cette pauvre petite Esther. Où trouvez-vous des créatures belles comme la fille qui a doublé cette juive pendant quelque temps pour monsieur de Nucingen? Je ne sais où les prendre quand j'en ai besoin. Monsieur, monsieur, dit Jacques Collin, vous m'accablez. De votre part, ces éloges feraient perdre la tête. Ils sont mérités. Comment? Vous avez trompé Peyrade. Il vous a pris pour un officier de paix, lui. Tenez, si vous n'aviez pas eu ce petit imbécile à défendre, vous nous auriez rossés. Ah, monsieur, vous oubliez Contenson déguisé en mulâtre, et Peyrade en anglais. Les acteurs ont les ressources du théâtre. Mais être aussi parfait au grand jour à toute heure, il n'y a que vous et les vôtres. Eh bien, voyons, dit Corentin, nous sommes persuadés l'un et l'autre de notre valeur, de nos mérites. Nous voilà tous deux là, bien seuls. Moi, je suis sans mon vieil ami, vous sans votre jeune protégé. Je suis le plus fort pour le moment. Pourquoi ne ferions-nous pas comme dans l'auberge des adrets? Je vous tends la main en vous disant « Embrassons-nous » et que cela finisse. Je vous offre, en présence de monsieur le procureur général, des lettres de grâce pleines et entières, et vous serez un des miens, le premier après moi, peut-être mon successeur. Ainsi, c'est une position que vous m'offrez, dit Jacques Collin. Une jolie position. Je passe de la brune à la blonde. Vous serez dans une sphère où vos talents seront bien appréciés, bien récompensés, et vous agirez à votre aise. La police politique et gouvernementale à ses périls. J'ai déjà, tel que vous me voyez, été deux fois emprisonné. Je ne m'en porte pas plus mal. Mais on voyage, on est tout ce qu'on veut être. On est le machiniste des drames politiques. On est traité poliment par les grands seigneurs. Voyez, mon cher Jacques Collin, cela vous va-t-il? Avez-vous des ordres à cet égard? Lui dit le forçat. J'ai plein pouvoir, répliqua Corentin tout heureux de cette inspiration. Vous badinez, vous êtes un homme très fort. Vous pouvez bien admettre qu'on se puisse défier de vous. Vous avez vendu plus d'un homme en le liant dans un sac et en l'y faisant entrer de lui-même. Je connais vos belles batailles, l'affaire Montauran, l'affaire Simeuse. Ah, c'est les batailles de Marengo de l'espionnage. Eh bien, dit Corentin, vous avez de l'estime pour monsieur le procureur général? Oui, dit Jacques Collin en s'inclinant avec respect. « Je suis en admiration devant son beau caractère, sa fermeté, sa noblesse, et je donnerai ma vie pour qu'il fût heureux. Aussi commencerai-je par faire cesser l'état dangereux dans lequel est Madame de Sérisy. » Le procureur général laissa échapper un mouvement de bonheur. « Eh bien, demandez-lui, reprit Corentin, si je n'ai pas plein pouvoir pour vous arracher à l'état honteux dans lequel vous êtes et vous attacher à ma personne. » « C'est vrai, » dit M. de Granville en observant le forçat. « Bien vrai, j'aurai l'absolution de mon passé et la promesse de vous succéder en vous donnant des preuves de mon savoir-faire. »
« Entre deux hommes comme nous, il ne peut y avoir aucun malentendu, »
reprit Corentin avec une grandeur d'âme à laquelle tout le monde eût été pris. « Et le prix de cette transaction est sans doute la remise des trois correspondances. » dit Jacques Collin. Je ne croyais pas avoir besoin de vous le dire. Mon cher monsieur Corentin, dit Trompe-la-Mort, avec une ironie digne de celle qui fit le triomphe de Talma dans le rôle de Nicomède, je vous remercie. Je vous ai l'obligation de savoir tout ce que je vaux et quelle est l'importance qu'on attache à me priver de ces armes. Je ne l'oublierai jamais. Je serai toujours et en tout temps à votre service, et au lieu de dire comme Robert Macaire, embrassons-nous, moi, je vous embrasse. » Il saisit avec tant de rapidité Corentin par le milieu du corps que celui-ci ne put se défendre de cette embrassade. Il le serra comme une poupée sur son cœur, le baisa sur les deux joues, l'enleva comme une plume, ouvrit la porte du cabinet et le posa dehors, tout meurtri de cette rude étreinte. « Adieu, mon cher, » lui dit-il à voix basse et à l'oreille. « Nous sommes séparés l'un de l'autre par trois longueurs de cadavres. Nous avons mesuré nos épées. Elles sont de la même trempe, de la même dimension. Ayons du respect l'un pour l'autre, mais je veux être votre égal, non votre subordonné. Armé comme vous le seriez, vous me paraissez un trop dangereux général pour votre lieutenant. Nous mettrons un fossé entre nous. « Malheur à vous si vous venez sur mon terrain. Vous vous appelez l'État, de même que les laquais s'appellent du même nom que leur maître. Moi, je veux me nommer la justice. Nous nous verrons souvent. Continuons à nous traiter avec d'autant plus de dignité, de convenance, que nous serons toujours d'atroces canailles, » lui dit-il à l'oreille. « Je vous ai donné l'exemple en vous embrassant. » Corentin resta sot pour la première fois de sa vie, et il se laissa secouer la main par son terrible adversaire. « S'il en est ainsi, dit-il, je crois que nous avons intérêt l'un et l'autre à rester amis. » Nous en serons plus forts chacun de notre côté, mais aussi plus dangereux, ajouta Jacques Collin à voix basse. Aussi me permettrez-vous de vous demander demain des arrhes sur notre marché. « Eh bien, dit Corentin avec bonhomie, vous m'ôtez votre affaire pour la donner au procureur général. Vous serez la cause de son avancement. Mais je ne puis m'empêcher de vous le dire, vous prenez un bon parti. Bibi Lupin est trop connu, il a fait son temps. Si vous le remplacez, vous vivrez dans la seule condition qui vous convienne. Je suis charmé de vous y voir, parole d'honneur. » « Au revoir, à bientôt, dit Jacques Collin. » En se retournant, Trompe-la-Mort trouva le procureur général assis à son secrétaire, la tête dans les mains. « Comment vous pourriez empêcher la comtesse de Sérisy de devenir folle ?» demanda M. de Granville. « En 5 minutes, répliqua Jacques Collin. « Et vous pouvez me remettre toutes les lettres de ces dames ? Avez-vous lu les trois ?»« Oui, dit vivement le procureur général. J'en suis honteux pour celles qui les ont écrites. « Eh bien, nous sommes seuls. Détendez votre porte et traitons, » dit Jacques Collin. « Permettez, la justice doit avant tout faire son métier, et M. Camusot a l'ordre d'arrêter votre tante. »« Il ne la trouvera jamais, » dit Jacques Collin. « On va faire une perquisition au temple, chez une demoiselle Paccard qui tient son établissement. On n'y verra que des haillons, des costumes, des diamants, des uniformes. Néanmoins, il faut mettre un terme au zèle de M. Camusot. M. de Granville sonna un garçon de bureau et lui dit d'aller dire à M. Camusot de venir lui parler.
« Voyons, dit-il à Jacques Collin, finissons. Il me tarde de connaître votre recette pour guérir la comtesse. »
« Monsieur le procureur général, dit Jacques Collin en devenant grave, j'ai été, comme vous le savez, condamné à 5 ans de travaux forcés pour crimes de faux. J'aime ma liberté. Cet amour, comme tous les amours, est allé directement contre son but. Car en voulant trop s'adorer, les amants se brouillent. En m'évadant, en étant repris tour à tour, j'ai fait 7 ans de bagne. Vous n'avez donc à me gracier que pour les aggravations de peine que j'ai empoignées au bagne. En réalité, j'ai subi ma peine, et jusqu'à ce qu'on me trouve une mauvaise affaire, ce dont je défie la justice et même Corentin, je devrais être rétabli dans mes droits de citoyen français, exclu de Paris, et soumis à la surveillance de la police. Est-ce une vie? Où puis-je aller? Que puis-je faire? Vous connaissez mes capacités. Vous avez vu, Corentin, ce magasin de ruses et de trahisons, blême de peur devant moi, rendant justice à mes talents. Cet homme m'a tout ravi, car c'est lui, lui seul qui, par je ne sais quel moyen et dans quel intérêt, a renversé l'édifice de la fortune de Lucien. Corentin et Camusot ont tout fait, ne récriminez pas, dit M. de Granville, et allez au fait. Eh bien, le fait, le voici. Cette nuit, en tenant dans ma main la main glacée de ce jeune mort, je me suis promis à moi-même de renoncer à la lutte insensée que je soutiens depuis 20 ans contre la société tout entière. Vous ne me croyez pas susceptible de faire des capucinades après ce que je vous ai dit de mes opinions religieuses. Eh bien, j'ai vu, depuis 20 ans, le monde par son envers, dans ses caves, et j'ai reconnu qu'il y a dans la marche des choses une force que vous nommez la Providence, que j'appelais le hasard, que mes compagnons appellent la chance. Toute mauvaise action est rattrapée par une vengeance quelconque, avec quelque rapidité qu'elle s'y dérobe. Dans ce métier de lutteur, quand on a beau jeu, quinte et 14 en main avec la primauté, la bougie tombe, les cartes brûlent, ou le joueur est frappé d'apoplexie. C'est l'histoire de Lucien. Ce garçon, cet ange, n'a pas commis l'ombre d'un crime. Il s'est laissé faire. Il a laissé faire. Il allait épouser Mademoiselle de Grandlieu, être nommé marquis. Il avait une fortune. Eh bien, une fille s'empoisonne. Elle cache le produit d'une inscription de rente. Et l'édifice, si péniblement élevé de cette belle fortune, s'écroule en un instant. Et qui nous adresse le premier coup d'épée? Un homme couvert d'infamie secrète. Un monstre qui a commis dans le monde des intérêts de tels crimes, entre parenthèses, voir la maison Nucingen, que chaque écu de sa fortune est trempé des larmes d'une famille, par un Nucingen qui a été Jacques Collin légalement et dans le monde des écus. Enfin, vous connaissez tout aussi bien que moi les liquidations, les tours pendables de cet homme. Mes fers estampilleront toujours toutes mes actions, même les plus vertueuses. Être un volant entre deux raquettes, dont l'une s'appelle le bagne et l'autre la police. C'est une vie où le triomphe est un labeur sans fin, où la tranquillité me semble impossible. Jacques Collin est en ce moment enterré, monsieur de Granville, avec Lucien, sur qui l'on jette actuellement de l'eau bénite et qui part pour le Père Lachaise. Mais il me faut une place où aller, non pas y vivre, mais y mourir. Dans l'état actuel des choses, vous n'avez pas voulu, vous, la justice, vous occuper de l'état civil et social du forçat libéré. Quand la loi est satisfaite, la société ne l'est pas. Elle conserve ses défiances et elle fait tout pour se les justifier à elle-même. Elle rend le forçat libéré un être impossible. Elle doit lui rendre tous ses droits, mais elle lui interdit de vivre dans une certaine zone. La société dit à ce misérable, « Paris, le seul endroit où tu peux te cacher,
et sa banlieue sur telle étendue. Tu ne l'habiteras pas. » Puis elle soumet le forçat libéré à la surveillance de la police. « Et vous croyez qu'il est possible dans ces conditions de vivre ?»« Pour vivre, il faut travailler, car on ne sort pas avec des rentes du bagne. » »« Vous vous arrangez pour que le forçat soit clairement désigné, reconnu, parqué. » »« Puis vous croyez que les citoyens auront confiance en lui, quand la société, la justice, le monde qui l'entoure n'en ont aucune. » »« Vous le condamnez à la faim ou au crime. » Il ne trouve pas d'ouvrage. Il est poussé fatalement à recommencer son ancien métier, qu'il envoie à l'échafaud. Ainsi, tout en voulant renoncer à une lutte avec la loi, je n'ai point trouvé de place au soleil pour moi. Une seule me convient, c'est de me faire le serviteur de cette puissance qui pèse sur nous. Et quand cette pensée m'est venue, la force dont je vous parlais s'est manifestée clairement autour de moi. Trois grandes familles sont à ma disposition. Ne croyez pas que je veuille les faire chanter. Le chantage est un des plus lâches assassinats. C'est à mes yeux un crime d'une plus profonde scélératesse que le meurtre. L'assassin a besoin d'un atroce courage. Je signe mes opinions, car les lettres qui font ma sécurité, qui me permettent de vous parler ainsi, qui me mettent de plein pied en ce moment avec vous, moi le crime et vous la justice. Ces lettres sont à votre disposition. Votre garçon de bureau peut les aller chercher de votre part, elles lui seront remises. Je n'en demande pas de rançon, je ne les vends pas. Hélas, monsieur le procureur général, en les mettant de côté, je ne pensais pas à moi. Je songeais au péril où pourrait se trouver un jour Lucien. Si vous n'obtempérez pas à ma demande, j'ai plus de courage, j'ai plus de dégoût de la vie qu'il n'en faut pour me brûler la cervelle moi-même et vous débarrasser de moi. Je puis, avec un passeport, aller en Amérique et vivre dans la solitude. J'ai toutes les conditions qui font le sauvage. Telles sont les pensées dans lesquelles j'étais cette nuit. Votre secrétaire a dû vous répéter un mot que je l'ai chargé de vous dire. En voyant quelles précautions vous prenez pour sauver la mémoire de Lucien de toute infamie, je vous ai donné ma vie, pauvre présent. Je n'y tenais plus, je la voyais impossible sans la lumière qui l'éclairait, sans le bonheur qui l'animait, sans cette pensée qui en était le sens, sans la prospérité de ce jeune poète qui en était le soleil. Et je voulais vous faire donner ces trois paquets de lettres. » Monsieur de Granville inclina la tête.